Jusqu'à l'année dernière, cette papeterie industrielle recyclait 480 000 tonnes de papier par an, soit l'équivalent de ce que jettent 24 millions d'habitants.
S'ils ont la volonté de vendre, c'est aussi parce que peut-être qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des concurrents papetiers. Alors qu'il y a un site en France qui demande qu'à redémarrer.
L'usine, elle est en état, elle est prête à redémarrer. Maintenant, c'est à l'état de jouer.
Là, vous jouez sur des familles, vous jouez sur des avenirs. Cette colère, c'est celle d'un citoyen, c'est celle d'un représentant du personnel qui vous dit les yeux dans les yeux, vous voulez quitter le territoire, eh bien laissez le territoire choisir de l'industrie qu'ils veulent ici.
Et si on ne cesse pas faire et si on lâche rien, c'est bien pour autre chose, c'est parce qu'il y a une offre qui va être déposée.
Ouais, voilà, encore une fois, sur la route de Paris, tous les trois.
Salut à tous les papchaps, donc le trio infernal.
On sait qu'à Chapelle, un travail, c'est particulier parce que c'est souvent c'est familial. J'en suis un exemple, hein, mon grand-père, mon père, etc.
Et on est convaincu qu'en fait, au bout, c'est nous qui allons gagner parce que c'est la seule issue possible pour Chapelle d'Arblé.
On est parti trop loin dans le truc, donc maintenant, on ira jusqu'au bout.
Marianne Allaire-Lafitte, vous m'entendez?
Oui, vous pouvez m'appeler Marianne, hein, d'ailleurs.
Bonjour, merci d'être au téléphone. Donc, c'est pour votre documentaire, L'usine, le bon, la brute et le truand, qui sera présenté au cinéma L'ABC à Toulouse ce mardi à 20h30, c'est ça?
Tout à fait, au cinéma et, ABC.
Voilà, et j'imagine qu'ensuite, il y aura une discussion avec vous.
Absolument, un échange qui va être animé avec l'Université populaire Edgar Morin pour la métamorphose.
D'accord. Et dans l'heure actuelle, là, vous êtes en tournée, si on peut dire, dans toute la France avec le documentaire.
Oui, là, je suis rentrée là, de La Roche-sur-Yon, où j'étais hier soir, avant-hier soir et avant-avant-hier soir, j'étais en Bretagne. Mm-hmm. Lundi soir, j'étais à Paris. Enfin, tous les soirs, j'ai une projection en France.
Mm-hmm. D'accord. Donc, l'usine, le bon, la brute et le truand, vous avez repris, une partie de Libellé d'un film qui est très connu.
Oui.
Voilà. J'imagine que, oui, ça a un sens, ce n'est pas innocent le choix du titre.
Pas du tout, non, c'est pas innocent. D'abord, les trois personnages de mon film, qui sont trois représentants du personnel qui se sont battus pour sauver leur usine, ont trois personnalités différentes.
Bien trempées.
Voilà, parce que il y a deux ouvriers cégétistes qui sont le bon et la brute. Mm-hmm. Et il y a un cadre sans étiquette qui s'est allié avec eux, qui est le truand. Mm-hmm. Voilà, puisque les cégétistes, les ouvriers se moquent beaucoup du cadre tout du long du film. Ça se vanne beaucoup. Mm-hmm. Et donc, ils se sont surnommés comme ça pendant la lutte. Et donc, c'est resté. Mm-hmm. D'où le titre. Et puis, le deuxième point, c'est que le film a été monté un peu comme un western social.
D'accord.
Avec des rebondissements, avec des moments d'attente, des moments de tension, comme on peut le retrouver dans le film de Sergio Leone, avec des plans aussi très cinématographiques sur l'usine, qui est une immense usine où il y a des machines à papier, à fabriquer du papier qui font plus de 50 mètres de long, vous imaginez. Donc je me suis amusée à filmer tout cela un peu comme un western.
D'accord. Parce que pour les gens qui ne connaîtraient pas, dont ça relate l'histoire de la papeterie de la Chapelle d'Arblay, donc qui était une usine qui fabriquait du papier recyclé pour les journaux, c'est ça?
Alors, c'est pas l'histoire de Chapelle d'Arblay. C'est plus le combat, la dernière lutte qui a eu lieu entre 2019 et 2022, qui a été menée, donc cette lutte, par les trois représentants.
Les trois, voilà, oui, les trois personnages, si on peut dire.
Voilà, qui ont tout fait pour sauver
cette usine, oui,
de la destruction, puisque cette usine qui est centenaire.
Mais oui, et qui était la seule en France, c'est ça.
Alors, en France, c'était l'unique, et c'était surtout la dernière usine à fabriquer du papier journal 100% recyclé.
Recyclé, oui.
D'une part, et d'autre part, c'était un site névralgique pour le recyclage des papiers de près de 24 millions de Français.
D'accord.
C'est un site qui était essentiel au recyclage papier. Mmh. Depuis que l'usine est fermée, là, tous les papiers qui sont envoyés à Chapelle d'Arblay sont récupérés par camion.
Oui.
Ils traversent toute la France vers l'Est pour être incinérés en Allemagne.
Ah, ils sont incinérés, ils sont même pas recyclés, d'accord, oui.
Bah, ils sont plus recyclés depuis que l'usine est fermée. Et d'accord. Là, les trois représentants qui ont lutté pour sauver cette usine de la destruction, aujourd'hui ont gagné et il y a un projet de réouverture.
Oui, ça j'ai vu ça dans le dossier.
Dans les années à venir. Pas tout de suite, parce qu'il faut du temps pour remettre en marche, vous savez, ces immenses...
Les machines, oui. Et oui.
Voilà. Uh-huh. Mais il est prévu que Chapelle d'Arblay reprenne son activité d'ici 3 ans. Donc, c'est une victoire syndicale, c'est une victoire salariale, et c'est une victoire aussi pour l'écologie.
Pour l'écologie, oui, ce que j'allais dire. Ouais.
Uh-huh. Voilà. Puisqu'on a sauvé ce site de recyclage papier qui est essentiel pour la France.
Mmh. Oui, parce que par rapport à l'écologie, c'est le fait de recycler du papier, c'est quand même un moindre mal, quoi, si je puis dire.
Ah bah oui, oui, tout à fait. Donc vous imaginez un peu l'importance et surtout la conviction avec laquelle ces trois représentants
se sont battus
parce que pour eux c'était essentiel de sauvegarder ce site. Aujourd'hui, il y a très peu de sites de recyclage en France et petit à petit, cette désindustrialisation progressive, elle fait que des sites essentiels pour les Français, pour les citoyens français disparaissent, et ça c'est pas normal, et c'est, il faut lutter contre ça.
Oui, oui, c'est négatif à tous les niveaux, quoi.
Voilà.
Niveau exactement. Humain, niveau écologique, niveau sociétal, enfin c'est...
Voilà.
C'est une catastrophe, quoi. Enfin...
Oui. Oui, absolument. Voilà.
Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce documentaire autour de cette lutte et de ces trois personnages.
Alors, moi, je suis très intéressée, de manière générale, par les questions liées au travail, au salariat, et in extenso, par le rôle du syndicalisme aujourd'hui, de la lutte collective à l'heure du changement climatique.
Oui.
Et il y a 3 ans, j'ai fait un film pour Arte qui s'intitule « Vive le travail », où je m'étais questionnée sur les conditions de travail aujourd'hui, et j'avais rencontré pas mal de travailleurs et travailleuses. Et je m'étais aperçue que la notion du syndicat n'était pas forcément très, très claire, notamment chez les jeunes. Et je voulais raconter en fait une histoire actuelle, une lutte actuelle, autour de la question écologique et de la question sociale.
D'accord.
Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de Chapelle d'Arblay, puisque j'avais lu un article à la suite d'une opération commando que les trois représentants du personnel avaient menée avec la CGT et Greenpeace devant le ministère de l'Économie et des Finances, chez Bruno Le Maire.
D'accord.
Ça s'est passé en avril 2021. Il y a eu de la presse à la suite de cette opération commando, et c'est comme ça que j'ai entendu parler de Chapelle d'Arblay.
D'accord. Et quand vous avez été les rencontrer la première fois, comment vous ont-ils accueilli? Est-ce qu'ils ont apprécié qu'une réalisatrice vienne les rencontrer pour narrer leur histoire et leur combat, surtout?
Alors, ça n'a pas été simple, en fait, parce que quand vous vous présentez, que vous êtes documentariste et que vous vous présentez comme ça face à des gens qui sont... dans une lutte de survie.
Oui, et puis ça devait être dur au quotidien, quoi. Puis en plus, voilà, ils ne sont que trois. Enfin, c'est trois qui, comme ça, soulèvent des montagnes, si on peut dire.
Exactement. Ils étaient tous les trois, ils étaient très concentrés, ils étaient vraiment sur cette lutte. Et de voir débarquer une réalisatrice avec sa caméra, au départ, ils étaient assez réticents.
Un peu agacés, on va dire.
Alors... pas agacés, mais ils étaient réticents.
D'accord.
Ils se posaient. En fait, ils ne voyaient pas pourquoi je souhaitais absolument filmer leur lutte.
D'accord.
Et en fait, Philippe Martinez, à l'époque secrétaire général de la CGT, qui avait vu mon précédent film, Vive le travail, les a rassurés en leur disant je pense que c'est une bonne chose que vous vous laissiez filmer par Marianne. Et par conséquent, ils ont été. plus réceptif ensuite par la suite, et ensuite je suis devenue le quatrième larron en foire, quoi. C'est-à-dire qu'après,
d'accord,
au fil du temps et au fil du tournage, il m'appelait systématiquement, il joue avec moi avec la caméra dans le film, enfin ils sont très ils me calculent même plus, quoi. Je fais partie de leur lutte.
Oui, de leur oui.
Voilà.
D'accord. OK. À partir du moment où vous les avez rencontrés et puis où vous avez pu commencer aussi votre travail de documentariste, combien de temps s'est-il écoulé et combien de temps a duré votre présence là-bas
leur lutte à eux a duré 1014 jours.
Mmh.
Voilà, donc un peu plus de 3 ans, ce qui est énorme.
Oui, c'est énorme.
Moi, j'ai commencé à les filmer, ils étaient déjà à mi-parcours, on va dire. Donc, j'ai commencé à les filmer entre avril-mai 2021 et juin 2022. Voilà.
D'accord.
Donc, sur un peu plus d'une année.
D'accord. Voilà. Et puisque bon, ils sont trois, là, enfin, c'est un peu le combat de David contre Goliath, si on peut dire.
Oui.
Comment
ça,
faisait-il pour au quotidien pouvoir tenir, pouvoir.
Alors, en fait, ils ont négocié, c'est une très bonne question. C'est sûr que tenir comme ça.
Il faut pouvoir le faire,
seul,
quoi.
Et voilà, il faut quand même avoir aussi une assise financière.
Et oui, il y a ça aussi, oui.
Voilà. Puisqu'en fait, pendant tout le temps de la lutte, ils ont négocié, grâce à la CGT, un accord avec l'inspection du travail et l'ancien propriétaire de l'usine, qu'ils soient payés, je dis bien qu'ils soient payés jusqu'à la fin de la lutte, le temps que l'avenir de Chapelle d'Arblay soit scellé. Donc, pendant tout le temps de la lutte, ils ont été payés, ils ont reçu leur salaire.
D'accord.
Et c'est depuis septembre 2022 qu'ils sont au chômage. Donc aujourd'hui, ils sont au chômage, mais là, il y a des négociations qui sont très avancées avec Veolia et Fibre Excellence, qui sont les deux repreneurs du site et qui se sont engagés à réouvrir Chapelle d'Arblay dans les mois qui viennent. Voilà.
Avec ce qui était la spécificité antérieure, c'est bien ça.
Oui, alors toujours faire fabriquer du papier, surtout maintenant plutôt des cartons d'emballage que du papier journal 100% recyclé, car comme vous le savez,
oui, la
presse écrite ne va pas bien et enfin en tout cas l'impression,
c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, voilà. Donc ils ont repensé le projet à venir autour du carton d'emballage.
D'accord. Et j'aimerais savoir aussi, bon, eux, c'était les trois défenseurs là de cette usine, de ce projet, toutes les personnes qui travaillaient au sein de cette usine, comment ont-elles réagi ?
Alors, vous savez, au départ, lorsque le propriétaire finlandais a annoncé la fermeture de l'usine et le licenciement des 217 salariés, c'était en septembre 2019.
Oui.
Donc, bien évidemment, il y a eu des mobilisations très fortes sur l'usine, avec des manifestations, avec des portes ouvertes pour que les politiques
puissent venir visiter. Oui,
voilà, exactement. Et pour alerter, en fait, la population, les citoyens, mais aussi les politiques, les élus locaux, de la situation de risque de fermeture, enfin de risque de destruction de Chapelle
d'Arblay. De ce lieu, oui, d'accord. Oui.
Voilà. Mais en mars 2020, confinement.
Et oui, c'est vrai,
Donc, 2020 a été une année, en fait, qui a bien arrangé, je pense, le propriétaire finlandais, puisque de facto, il n'y avait plus de mobilisation.
Forcément,
les gens étaient chez eux, comme vous le savez.
Avec leurs problèmes, leurs angoisses, enfin voilà. Quoi.
Avec leurs problèmes, avec leurs angoisses. Et quand on est dans la lutte, si on n'est pas ensemble, c'est très très compliqué de garder le moral.
Bien sûr.
Très compliqué. Donc, il y a beaucoup d'anciens salariés qui, en fait, ils n'ont pas abandonné lâchement, mais ils se sont recasés ailleurs, donc ils ont trouvé du travail ailleurs
parce que
l'avenir était très très incertain pour eux. D'autres sont partis à la retraite, Et puis, d'autres, malheureusement, ont très mal vécu
cette
fermeture et ne se sont pas remis de cette fermeture. Oui. Vous savez, on parle de classe sociale, mais
c'est souvent le cas, malheureusement. Oui.
Voilà, il y a des divorces, il y a des maladies aussi qui se déclarent après
bien
coup.
Sûr. Des familles qui explosent aussi. Enfin...
Exactement, exactement. Donc, non, ça a été, c'est toujours très, très compliqué. Et il y a Cyril, Arnaud et Julien étaient tellement déterminés dans leur action de sauver Chapelle d'Arblay parce que, alors pour l'un d'entre eux, pour Julien, ils sont ouvriers à Chapelle d'Arblay de père en fils. Donc
d'accord.
Pour lui, c'était très, très important.
Oui, il y avait une continuité,
à fait. Exactement. Quant à Cyril, lui, il a commencé en fait à se stabiliser professionnellement grâce à Chapelle d'Arblay. Donc pour lui, il est devenu papetier un peu par hasard. Il
d'accord.
a adoré ce métier. Et donc, il ne voulait pas accepter l'idée que Chapelle d'Arblay disparaisse.
Ouais.
Et quant à Arnaud, le cadre, qui était à la direction de cette usine, la direction commerciale, lui avait un attachement profond à l'aspect, j'allais dire, écologique.
D'accord.
C'est quelqu'un qui est extrêmement, qui est expert vraiment en cette matière-là, et qui a une grande connaissance des problématiques liées à l'écologie.
Oui.
Et donc, pour lui, c'était tout simplement une hérésie totale de détruire Chapelle d'Arblay.
Oui, c'était vital de pouvoir la conserver, de pouvoir conserver cette entreprise.
Exactement. Et donc, tous les trois, même pendant le confinement, ils sont restés en contact, ils se sont vraiment mobilisés et ils ont continué la lutte.
Oui, oui.
Et en fait, moi, quand je suis arrivée sur le site, ils étaient tout seuls.
Oui.
Mais en revanche, le film montre à quel point ils sont en communication permanente avec les anciens salariés, puisqu'ils faisaient, vous savez, tout le temps des petites vidéos avec leur téléphone
maintenir le lien,
Voilà, exactement. Et lorsque j'ai filmé la fête de la victoire qui s'est tenue en juin 2022, il y avait tous les anciens salariés qui sont revenus sur place. C'était très émouvant. Et là, en novembre 2023, il y a eu l'avant-première du film à Rouen.
Oui.
C'est une histoire qui se passe dans le bassin industriel de Rouen. Et là, il y avait plus de 450 personnes dans la salle, dont la moitié était composée des salariés. Des anciens salariés et c'était extrêmement émouvant et ça a montré aussi leur attachement à cette histoire, à cette lutte et à cette usine. Voilà. Donc maintenant on espère que ce projet de réouverture se concrétise et que les anciens salariés
puissent être intégrés
ceux qui souhaitent revenir pourront être réengagés et reprendre le travail aux machines de papier qui sont extraordinaires. Voilà.
Mais j'imagine qu'il faut que tout le monde reste très vigilant pour que cette réouverture puisse avoir lieu.
Oui.
Ça suppose de rester sur ses gardes, si je puis dire.
Oui. Non, ces histoires de lutte industrielle, pour des sites industriels comme ça, malheureusement. Tous les acteurs que sont les salariés n'ont pas la main mise sur le destin de l'usine. Ce sont avant tout les actionnaires.
Mais, oui.
Mais là, en l'occurrence, il y a eu une action politique de la part de la territorialité qui a usé de son droit de préemption pour casser une vente d'un industriel, de l'industriel finlandais à un autre industriel.
Oui.
Donc ça a été important et ça a permis de faire basculer le combat. Donc tout ça est montré dans le film et c'est très, très intéressant. Mais ce que je voulais dire, c'est que, j'ai perdu le fil. Attendez, je voulais vous dire un truc par rapport à votre question.
Je vous disais qu'il fallait que les personnes restent sur leur garde parce que, comme vous dites, ce sont les actionnaires qui ont les rênes.
Mais voilà mon point, le point que je voulais faire, c'est que surtout il faut rester sur ses gardes dans ces cas-là, alors qu'on ne devrait pas. Parce que y a un acteur qui ne joue pas son rôle dans cette histoire, c'est l'État.
Ah oui, ben voyons.
Et l'État, en fait, ici, une nouvelle fois, a montré sa timidité, sa réticence à aider Chapelle Darblay comme le site aurait mérité de
l'être
aidé.
Oui.
Et tout ça parce que, vous savez, ils ont des accords. L'État aussi a des accords. Enfin, c'est pas aussi, on le sait. Il y a des arrangements qui sont faits entre l'État et les industriels.
Oui, bien sûr. Oui.
On n'est pas au courant.
Oui, de.
C'est comme ça que ça se passe.
Oui, oui.
C'est comme ça que ça se passe. Et le grand absent dans cette histoire encore aujourd'hui, c'est quand même l'État. Voilà. C'est le point que je voulais faire.
Et est-ce que le ministre de l'économie a vu ce film?
Pas encore, mais j'aimerais bien qu'il le voie.
Et oui, j'imagine.
D'autant plus que le film a été diffusé à l'Assemblée nationale le 20 décembre dernier.
Ah d'accord. Et là, comment voilà. Ça a été reçu?
Bah, écoutez, je vais vous dire, ça a été très bien reçu parce que bon, il y avait une majorité de députés qui étaient présents et qui étaient acquis à la cause de Chapelle Darblay.
Oui.
Quant au reste, le 20 décembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le soir où Macron a pris la parole, vous savez, pour dérouler sa loi immigration. Et il avait parlé sur France 5 ce soir-là. Et ça a correspondu avec la diffusion du film à l'Assemblée nationale.
Ah, d'accord, ok.
C'était pas vraiment le bon moment, mais voilà, c'est mal tombé, mais c'est comme ça. Donc, Monsieur le maire n'a pas eu l'occasion de voir le film ce soir-là à l'Assemblée nationale. C'est bien dommage.
Ouais. Et est-ce que les mouvements écologistes soutiennent ce projet de réouverture? Est-ce qu'ils se manifestent de façon concrète et pertinente?
Absolument. Alors, il y a une alliance qui a été créée sous l'impulsion de Greenpeace et de la CGT, qui s'appelle l'alliance, enfin à l'époque ça s'appelait Plus Jamais Ça.
D'accord.
Et Plus Jamais Ça, c'est une alliance étonnante puisque ça regroupait donc la CGT, Greenpeace, la Confédération Paysanne, ATTAC, Oxfam, FSU, Solidaire, et puis il y avait une huitième organisation qui m'échappe, mais ça a été vraiment créé donc début 2021 justement pour aborder toutes les questions sociales et la question écologique. Donc voilà, ça s'appelait Plus Jamais Ça. Aujourd'hui, c'est l'Alliance écologique et sociale, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc il y a quand même, je veux dire, une conscientisation de toutes ces organisations qui se rendent compte, quelles qu'elles soient, qu'elles soient syndicales ou écologiques, à quel point il est important d'allier l'écologie et le social pour pouvoir sauver notre planète.
C'est indissociable, je pense.
Voilà, sinon on ne va pas s'en sortir.
Ah bah oui. Mais c'est ça, c'est là où le bas blesse, si je puis dire, parce que quand... Bah, nous entendons Monsieur le maire, comme vous dites, bon, ou d'autres membres du gouvernement, c'est vrai qu'il y a, il y a des choses qui n'ont pas intégrées, quoi, encore, ou qui ne veulent pas.
Absolument. Absolument.
Alors que c'est vraiment indissociable, quoi, et qu'il s'agit
de
la survie de...
Mais bien sûr, c'est surtout que si on veut continuer à travailler sur cette planète, il faut la respecter, tout simplement.
Et à y vivre à peu près correctement, oui. C'est...
Voilà. Et donc, il faut que, bien sûr, les travailleurs continuent à protéger leurs droits et travailler tout en respectant l'environnement. C'est essentiel, en fait. Oui. Sinon, on ne va pas s'en sortir.
Ah oui, parce que là, déjà, l'environnement est bien amoché, il faut dire choses comme elles sont.
Ah bah oui, je suis bien d'accord avec vous. Mais l'environnement est bien amoché parce que, pourquoi? Parce que les politiques des gouvernements passés, et puis surtout le fait aussi qu'il y ait une telle liberté d'action de la part des actionnaires.
Oui, bien sûr.
Ils sont complètement écocides, ils tuent notre planète.
Oui, oui.
Voilà, c'est tout.
Ah oui,
ça, c'est la réalité.
Oui, oui, mais ce sont des choix politiques, hein. c'est une évidence. Quoi.
Voilà.
D'accord, d'accord. Et là, quand vous, puisque maintenant vous sillonnez la France, donc pour présenter ce documentaire, justement, puisque chaque fois vous êtes présente pour animer des débats, des rencontres, comment cela se déroule-t-il?
Alors, écoutez, je vais être très honnête avec vous, je suis agréablement surprise parce que je vais vraiment dans partout en France. Et je vais à la rencontre de ce public et je me réjouis de voir à quel point les Français sont engagés,
concernés.
Engagés, militants. Ils découvrent pour la plupart la lutte de Chapelle d'Arblay.
Oui, j'imagine.
Ils sont absolument, conquis par les trois représentants du personnel. Et les débats sont passionnants. Les débats qui suivent après les projections sont vraiment passionnants. Donc, moi, ce qui me réjouit, c'est que de voir à quel point nous sommes un pays où il y a une forte intelligence, une forte vraiment conscience politique et environnementale. Et c'est super, c'est vraiment super.
D'accord. Donc, vous avez espoir, on va dire ça comme ça.
En tout cas... Je pense que c'est ça donne du baume au cœur. Je pense que c'est important et tout est tellement délétère en ce moment. Le monde est
toutes les autres
traversé quand même de choses terribles.
Oui.
Entre les guerres, entre la violence, entre l'extrême droite, donc ça fait du bien aussi de pouvoir se raccrocher à de belles histoires de lutte, de fraternité et d'intelligence
et d'entraide, collective. Oui, d'accord.
Et d'entraide, exactement, exactement.
Et à l'heure actuelle, comment vont les trois partenaires? Enfin, je sais pas comment on peut dire.
Alors, les trois représentants du personnel vont bien, ils sont solides, ils tiennent le coup. Mais je vous avoue que je pense aussi qu'ils sont fatigués.
J'imagine, oui.
Vraiment être sûr que Chapelle d'Arblay va réouvrir. Donc là, il y a des discussions qui vont bon train dans ce sens.
D'accord.
Donc relativement optimistes, mais ils attendent que leur contrat soit signé.
Et oui, bien sûr.
Ils attendent aussi que l'État fasse le dernier geste et rajoute l'argent nécessaire au bouclage du budget pour réouvrir Chapelle d'Arblay.
D'accord. Dans le dernier maillon financier, c'est l'État, c'est ça?
Ah oui, c'est l'État. C'est
d'accord.
L'État,
hein. Ouais.
Oui, absolument.
Ah oui, d'accord. Ok. Non, mais c'est bien de le préciser pour...
Oui, bien sûr,
Et justement, lors de vos rencontres là, dans les différentes communes de France, est-ce qu'il y a des élus qui assistent à la projection et puis qui restent au débat et qui éventuellement interviennent?
Alors, pour l'instant, je vais vous dire, on a fait une projection donc à l'Assemblée nationale.
Oui.
Et Anne Hidalgo a organisé une grande projection le 2 avril dernier au théâtre de la Concorde.
Ah, d'accord.
Au théâtre de la Concorde, à Paris.
D'accord.
Et c'était formidable parce que vraiment, elle a été conquise par le film. Je pense que, de par aussi ses origines, puisque son papa était ouvrier, elle a été touchée par le film. Donc, elle l'a montré, il y avait des élus. Je sais que la maire de Marseille était là ce soir-là et a souhaité organiser une projection à Marseille.
Oui.
Là, a priori, il y aurait un élu du Gers.
D'accord.
Qui souhaiterait organiser une projection dans le Gers.
Ok.
Ça commence à prendre du côté des élus politiques.
D'accord.
Voilà, parce que pour l'instant, les projections qui sont organisées émanent surtout des exploitants en province qui ont entendu parler du film, d'une part.
Oui.
Et puis aussi, bien évidemment, des camarades de la CGT, des militants de l'Alliance écologique et sociale, donc beaucoup de militants d'attaque notamment qui se mobilisent pour organiser ces projections. Donc pour l'instant pas trop d'élus, mais on ne sait jamais en tout cas ça commence
ça
à
chemine
prendre. Oui, ça chemine, exactement. Tout prend du temps, mais j'avance doucement mais sûrement en tout cas.
Voilà, ce sont de petits pas, mais bon, qui ont leur importance.
Tout à fait. Exactement. Et puis là, vous savez, le film est sorti le 3 janvier dernier. Il y a eu une sortie nationale sur une dizaine de copies, oui. Ce qui n'est pas beaucoup, hein, ce qui n'est oui. pas beaucoup, mais bon, c'était quand même pas mal. Et là, on est à plus de 100 projections déjà.
D'accord.
C'est énorme. Mm-hmm. Voilà.
D'accord.
Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année.
D'accord. Et ce soir, vous êtes quelque part ?
Alors, ce soir, je suis off.
D'accord, c'est bien. Profitez-en pour vous reposer.
Ce soir, je suis off. Okay. Voilà, parce que bah, là, tous les soirs, là, cette semaine, comme je vous le disais, j'étais en projection, mais oui, ce oui. soir, je suis off. Et lundi, je serai à Toulouse, donc pour être présente mardi soir.
Mardi soir pour la rencontre après la projection.
Voilà, exactement.
Donc, c'est mardi soir, 20h30, au cinéma à l'ABC.
Voilà, c'est cela.
Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre temps accordé. Merci.
Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie. Et bah, j'ai hâte d'écouter votre émission.
D'accord.
Voilà. Merci.
Merci. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.